Mon invitée aujourd'hui est consultante et conférencière dans le domaine des soins esthétiques. Avec plus d'une quinzaine d'années d'expérience dans l'industrie, elle occupe maintenant une place de mentor pour les esthéticiennes. En plus d'avoir fondé son entreprise en formation et coaching, elle est une fière militante du mouvement du leadership bienveillant. Je reçois Helga Centeno. Vous écoutez le balado « C'est la femme qui mène ». Le balado pour les femmes entrepreneurs et les gestionnaires qui vous proposent des discussions sur des sujets qui vous feront réfléchir et vous inspireront à devenir la meilleure version de vous-même en tant que leader bienveillante. Joignez-vous à moi et mes invités pour briser les tabous, changer les paradigmes et démarrer une nouvelle conversation qui défie les modèles du leadership traditionnel. Je suis Geneviève Mas et je suis votre hôte pour cette série. Helga Centeno, bonjour!
Bonjour Geneviève!
Merci d'avoir accepté mon invitation.
Oh mon Dieu, merci, je suis tellement honorée d'être ton invitée.
Ah, mais c'est moi, tout le plaisir est pour moi. Écoute, la question que je pose d'abord à tout le monde, et tu n'y échapperas pas, je t'ai présentée tout à l'heure comme une consultante, conférencière, comme une mentor dans l'industrie de l'esthétique. Toi, pour la première fois que tu rencontres quelqu'un, comment est-ce que tu te présentes d'abord?
Oui, ben en fait, comme une passionnée de l'esthétique, comme tu as mentionné, ça fait 15 ans que je travaille dans le domaine. J'adore partager mes connaissances, donc j'aime vraiment faire des conférences, des formations, de la consultation aussi pour aider les gens, que ce soit au niveau entrepreneurial en esthétique, mais aussi au niveau technique. Donc, j'adore beaucoup les technologies de lumière, comme les lasers, les lumières pulsées, etc. Et tout ce qui est la peau et l'intégration vraiment de l'esthétique, mais avec aussi le bien-être, en fond, de la personne.
Global.
Global, exactement. Donc, c'est une vision plus holistique. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'entrevois développer un petit peu plus, l'esthétique intégrative dans ce sens-là. Je fais quelques affaires dans le domaine, si on veut, là, autant que ce soit en one-on-one, dans le fond, si on veut, quand je rencontre des gens, on fait du coaching personnalisé, puis aussi en groupe. Puis, il y a aussi la formule formation en ligne qui s'en vient. Mais dans le fond, c'est ça, je fais un petit peu de tout. C'est un peu dur à dire parce que j'essaie de me mettre un petit peu, de m'impliquer dans différents paliers dans le domaine, si on veut, mais pour faire une différence puis élever les standards de l'industrie, dans le fond.
Mm-hmm. Ben écoute, tu le fais merveilleusement bien parce que t'es devenu la référence dans le domaine.
Oh mon Dieu! parmi d'autres quand même!
Écoute-moi, je te connais, Helga, comme une éternelle positive. Avec la crise actuelle là, qu'on vit en ce moment au Québec et partout dans le monde, du COVID-19, les mesures de distanciation sociale, il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû temporairement fermer leurs portes. Toi qui es très impliquée dans le domaine de l'esthétique, tu sais comme moi que c'est stressant pour les entrepreneurs. C'est une période qui est difficile. Qu'est-ce que l'éternelle positive a envie de dire à ces gens-là pour les garder motivés?
Bien, en fait, pour être honnête, puis juste faire une petite parenthèse, quand tout ça est arrivé avec les mesures de distanciation et de confinement, ça m'a pris un petit peu de temps à réaliser que moi-même, ça allait m'affecter. J'ai vraiment passé beaucoup justement à mes clientes, à tous les professionnels dans notre domaine. J'ai été, je crois, un bon 2 semaines à penser à ça. Mais on s'est mis avec le groupe Les Pros de la Peau, dans lequel j'ai confondé avec Sarah Maud et Mélanie. Sur Facebook, exactement. C'est une communauté privée pour les professionnels de l'esthétique. On s'est mis à faire des vidéos live, tout ça, puis moi, de mon côté aussi, à partager des publications sur mes réseaux sociaux pour encourager les gens, parce que c'est sûr qu'on est, tu sais, souvent on entend le mot « on est tous dans le même bateau », mais oui et non, dans le sens qu'on vit tous la même situation, même différemment. Donc, il y a des personnes que c'est sûr que ça va affecter beaucoup plus au niveau de leur, les finances, mais la famille, etc. D'autres pour qui ça va quand même bien. Donc, c'est sûr que j'ai toujours lancé des messages positifs, mais il faut aussi comprendre la réalité des gens, je pense. Donc, c'est sûr que personnellement, je suis beaucoup dans la pensée où est-ce que je crois que ces choses-là arrivent pour une raison, puis que c'est une opportunité, si on veut, de remettre de l'ordre dans nos priorités, si on veut. Et puis, de vraiment prendre le temps, parce qu'on est tellement dans une société où on court partout, on n'a jamais le temps de prendre le temps de juste respirer, de se regarder, de passer le temps avec la famille. Et souvent, on s'en plaint. Et là, maintenant que ça nous est donné, mais là, des fois, il y en a qui vont le prendre un petit peu plus difficilement, mais je pense que c'est une opportunité de regarder vraiment qu'est-ce qui est important. T'sais, on en a déjà parlé, toi et moi, le slow living, puis tout ça.
Oui.
Donc, c'est ça, je pense que c'est ça, c'est juste une question, des fois, c'est une opportunité, que ce soit entrepreneuriale ou dans une vie personnelle, de remettre de l'ordre, de regarder comment on va s'adapter, mais aussi peut-être juste prendre des mesures différentes dans notre vie pour mieux vivre en société aussi. Donc, c'est vraiment de voir un peu, oui, notre vie personnelle, mais aussi comment on peut mieux s'entraider. Donc, c'est beau de voir, justement, on va parler de leadership bienveillant, mais de voir justement les vrais leaders, à mon avis, qui se mettent à l'avant pour aider. Exactement, exactement.
Mm-hmm. Oui, tout à fait. Puis c'est drôle, hein, tu disais de penser, un peu repenser notre façon de vivre, ramener un petit peu plus de slow living. Mais on a comme tendance à, là, on est en arrêt forcé, mais on veut s'occuper comme quand on était occupé avant. T'sais, on a tendance à surcharger notre horaire comme si ça nous réconfortait, t'sais, mais alors qu'on peut peut-être juste prendre le temps, effectivement, mm-hmm. de se poser, puis d'apprendre à vivre tranquillement, t'sais, puis de vivre le bien-être que ça procure, en fait.
Ben oui, exactement. C'est en fait sur je crois Instagram hier, je voyais un petit une publication passée qui m'a vraiment touchée, puis ça disait qu'il faut apprendre que le succès c'est pas attends, c'était quoi déjà? En fait, je me rappelais plus exactement, mais je pense que ça parlait du fait que le succès c'est pas toujours lié à l'argent dans le fond, puis que faut apprendre à désapprendre si on veut. Qu'il faut toujours être sur le go là, justement par rapport au succès, puis qu'il faut toujours être actif, puis tout ça. Donc c'est un peu relatif. C'est sûr qu'il y en a qui vont voir le succès comme lié à une carrière ou à l'argent, mais tu sais, on peut avoir du succès en ayant une belle famille par exemple, ou en ayant une maîtrise de soi, tu sais, je veux dire, c'est tellement plus vaste.
Donc contribuer, oui.
C'est ça. Puis je pense que c'est avec la société, on a été tellement, je pense que c'est même au niveau scolaire, on est tellement habitué d'être dans la performance. Fait que même des jeunes, on est un peu préprogrammés à ça, à performer, puis la compétition un peu, puis tu sais, c'est ça, c'est un peu comme si des fois les gens se donnent une valeur à eux par rapport à ça, à la performance.
Alors que là, ils se mesurent entre eux.
C'est ça, exactement. Ouais. Exactement. Tandis que là, je pense que c'est une opportunité de justement voir. Qu'on fait une différence, qu'on est important dans la vie, mais que c'est ça, faut prendre soin de soi, puis de nos proches, puis c'est important. Donc.
Oui, si je dis ils se mesurent entre eux, mais nous mesurons entre nous, je ne suis pas à l'abri de ça, on est non. tous un peu sujet à tomber dans ce piège-là. Mm-hmm. Mais bref, oui, c'est intéressant, c'est bien de le voir comme une opportunité.
C'est ça, de se faire de fausses croyances, si on veut, puis de...
Oui.
Absolument.
moi, je veux discuter d'un sujet qui nous unit toutes les deux, le leadership. Particulièrement, comme tu le disais tout à l'heure, le leadership bienveillant. On le sait, c'est le thème phare un peu de mon balado, de mon podcast. Je pense que la bienveillance, c'est quelque chose qui manque cruellement dans le monde des affaires. Malheureusement, justement, la crise a soulevé ou a mis au grand jour des cas un peu épouvantables de gens qui prenaient avantage financièrement ou de toutes sortes de façons de cette crise-là. Donc, la bienveillance, c'est quelque chose qui manque dans le monde des affaires. Puis, je pense que tous les deux, on en a fait notre motto d'inspirer les gens à vivre l'entrepreneuriat, mais différemment. Mm-hmm. D'ailleurs, tu as fait une brillante conférence sur le sujet l'an dernier. Mm-hmm. Je veux savoir, en fait, c'est quoi ton appel ou l'élément déclencheur qui t'a poussé à faire la promotion de ce mode de leadership-là?
Wow! C'est une belle question, ça! En fait, ben c'est sûr que dans le domaine, vu qu'on est dans le domaine d'esthétique, hein, on s'est connus à travers ça, on est proche des gens. Hein, donc, c'est sûr que, parce que, puis je pense que c'est bien d'en parler un petit peu, hein, parce que je veux pas que ça tourne autour nécessairement de l'esthétique, mais c'est juste que c'est un métier qui est un petit peu, ben, en fait, mal connu, je dirais. Je pense que les gens comprennent pas à quel point on est proche et qu'on fait une différence dans la vie des gens. Parce que quand on prend soin des gens, l'amour qu'on peut donner, l'énergie qu'on va partager avec les gens, ça a vraiment un impact. Et donc, ça a toujours été, en fait, une des raisons pour laquelle j'ai été attirée par ce domaine-là en tant que tel. Et à travers les années, bon, étant donné que j'ai été consultante pour une compagnie, là, je suis devenue coach à mon compte, je me rends compte de ce que tu as dit, justement, que dans le monde des affaires, on dirait que on est poussé à vraiment axer tout sur la maximisation des profits, où est-ce qu'on peut couper, puis plutôt que de voir, dans le fond, comme on dit en anglais, le big picture, l'impact que l'entreprise peut donner. Puis une entreprise, dans un terme, si on peut... financier, c'est sûr que c'est comme une personne morale, ça agit comme une personne. Donc, mais c'est pas juste des papiers, c'est pas juste des chiffres, ça peut vraiment donner un impact énorme dans la vie collective des gens. Donc, j'ai commencé ben, moi-même à travers mes propres coachs, parce que je peux pas prétendre que j'ai la vérité infuse et que j'ai toutes les connaissances. Donc, moi-même, j'ai mes coachs aussi. Alors, quand j'ai commencé à prendre du coaching, ça a été un thème qui a été tranquillement un peu plus révélé à moi, si on veut, de savoir vraiment comment on peut faire un impact, de partir vraiment d'une mission. Qu'est-ce que la compagnie va faire vraiment? Puis c'est pas juste qu'est-ce qu'on offre comme service ou comme produit, mais vraiment quel est l'impact que ça va donner dans la société, par exemple. Donc, pour moi, c'est ça, c'est toujours été quelque chose qui m'a toujours attirée. Puis j'ai un côté aussi plus peut-être spirituel, que je sens que je suis de plus en l'aise en parler. Et je sens aussi que la société est plus en l'aise d'en parler aussi. Tu sais, on voit, je pense grâce à l'Internet, qu'on voit une espèce de conscience collective qui commence à émerger. Et je pense qu'il y a de plus en plus de compagnies aussi qui s'en vont vers ça aussi. Donc, le leadership bienveillant. Donc, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup parce que j'adore les gens puis j'aime beaucoup aider puis voir les autres aussi faire une différence dans la vie des autres. Donc, pour moi, ça a été important d'en parler parce qu'on est dans un domaine où est-ce qu'on est proche des gens, comme je disais tout à l'heure. Et donc, j'ai décidé de faire une conférence là-dessus pour inspirer les gens puis de leur donner comme espoir et aussi un petit coup de pouce à aller vers ça parce que des fois, on dirait que quand on est entrepreneur, des fois, ben c'est sûr qu'on n'a pas toujours une expérience où on n'est pas nécessairement allé dans une école de business, si on veut, d'administration. Donc, on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Puis le leadership, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment juste lire dans un livre. Ça s'apprend avec l'expérience. Donc, en tout cas, dans notre domaine en particulier, il n'y a pas beaucoup de coaching nécessairement qui se fait aussi à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que ça m'a motivée. Je me suis dit, qu'est-ce que ça peut donner comme impact? Qui va aussi avoir des répercussions parce que les personnes avec qui ça peut toucher, ben, peuvent aussi, après ça, donner au suivant, si on veut. Donc, mm-hmm. C'est ce qui m'a motivée.
Ça englobe quoi pour toi, le leadership bienveillant, en fait?
Ben, c'est en fait vraiment, c'est pas de mettre de côté nécessairement. Si on parle d'entrepreneuriat, c'est pas nécessairement de mettre de côté la maximisation de profit, mais c'est juste de mettre vraiment l'emphase sur le bien collectif, d'avoir une vision plus holistique vraiment qui englobe tout. Donc, des fois, dans des entreprises, on a des départements, hein, c'est un peu comme un corps humain, on a, tu sais, la tête de l'entreprise, on a le cœur, on a les membres. Donc, on a souvent des départements, finance, marketing, etc. Et des fois, il manque une espèce de cohésion puis qui, je crois, qui est vraiment justement, qui part d'un manque de vision ou de mission. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens veulent plus nécessairement juste travailler pour des compagnies pour faire de l'argent ou juste pour avoir un bon salaire. Je pense qu'ils veulent sentir qu'ils font une différence aussi. Donc, d'avoir une direction puis d'avoir vraiment la bienveillance en fond au niveau de, oui, les employés, les clients, la planète même. Est-ce que la compagnie va prendre des initiatives pour protéger la planète? Parce qu'on partage tous, on est tous dans ce même gros bateau-là, si on veut, dans ce sens-là. Donc, le leadership bienveillant, c'est que ça va plus loin que juste ses propres intérêts personnels, finalement. Donc, c'est vraiment d'étendre notre cœur vers les autres.
Mm-hmm. Oui, absolument. C'est bien dit, étendre notre cœur vers les autres. J'adore ça.
Merci.
Moi, je pense que le leadership bienveillant, ça englobe évidemment un paquet de choses, comme tu l'expliquais si bien tout à l'heure. Ça, c'est le « nous » avant le « je ». De penser, d'étendre son cœur vers les autres, voilà. D'avoir une communication bienveillante, donc d'apprendre à bien communiquer avec les membres de son équipe. Je parle aussi beaucoup, moi, de non-violence. Non-violence, pas, évidemment, pas physiquement, mais non-violence dans nos pensées. Envers les autres et envers soi-même. Je pense que de sincèrement, honnêtement, profondément souhaiter le meilleur pour les autres, même nos compétiteurs.
Oui.
Souhaiter le meilleur pour soi-même aussi. Puis ça, j'en parle avec une autre de mes invitées dans l'épisode avec la coach Julie Choquette, les pensées nuisibles, d'être capable de les reconnaître, d'éviter de se dire « Ah, oh, je suis donc bien pas bonne, puis je suis pas bonne vendeuse, puis je suis pas bonne ici. » Ça, je pense que le leadership bienveillant, il y a une espèce de travail personnel sur soi également.
Énorme, absolument. Ça prend ça parce que si on veut inspirer d'autres personnes, il faut faire le travail et ça prend, comme tu l'as dit, transformation. Parce que des changements, comme j'en avais parlé en fait dans ma conférence, des changements, tu sais, c'est plus un changement de, faire des choses différemment, si on veut. Mais quand on se transforme, c'est une façon d'être nouvelle. Et comme tu l'as si bien dit, ça prend justement une conscience de soi pour aller voir qu'est-ce qu'on a à travailler. Des fois, c'est pas toujours facile, mais il faut aller se défaire des croyances limitatives qui viennent des fois de notre passé ou de notre entourage qui nous appartient pas vraiment, mais qui nous limite. Mais c'est le travail, dans le fond, des leaders bienveillants là, de travailler sur soi puis ensuite d'inspirer les autres à faire de même. Donc, c'est pas un titre nécessairement, c'est plus une façon d'être.
Exact. Prêcher par l'exemple aussi.
Exact. Exactement. Ouais. C'est ça, absolument.
je parle beaucoup, je prends beaucoup aussi l'équilibre. Pour moi, ça, c'est important aussi. Le « work hard, play hard », comme on dit en français, moi, ça colle moins. Mais pourquoi pas « work smart, play smart ». Peut-être qu'est-ce que je peux équilibrer la famille et le travail de façon à ce que je n'ai pas une carence ou un manque dans une des sphères, tu sais, de faire les choses un peu plus intelligemment, équilibré en fait. J'inclus la discipline aussi là-dedans, c'est important. T'sais, un leader bienveillant, c'est discipliné, ça travaille fort. Et un leader bienveillant, ça a le droit de faire du profit aussi.
Ah oui,
c'est pas, c'est important. Puis malheureusement, je trouve que c'est encore un peu, pas mal vu, mais un peu tabou au Québec de dire qu'on fait de l'argent. Oui. Puis au contraire, c'est comme ça qu'on peut contribuer, c'est comme ça qu'on peut offrir des emplois, c'est comme ça qu'on peut encourager des organismes, c'est comme ça qu'on peut faire une différence dans la société. Donc tout ça, ça fait partie du leadership bienveillant.
Oui, c'est ça. Puis en fait, comme tu l'as dit, je pense que comme on a une mauvaise peut-être relation. Ça, c'est des fois justement le travail personnel qu'il faut faire parce qu'il faut regarder pourquoi on. Si jamais on pense ça, que peut-être c'est mal de faire de l'argent, c'est souvent une mauvaise relation qu'on a eue basée sur une mauvaise expérience ou notre éducation qu'on a eue. Mais comme tu l'as dit, il n'y a pas de mal à ça. Puis au contraire, c'est ça, il faut qu'une compagnie soit capable d'en faire pour justement offrir des salaires, puis offrir des belles initiatives. Même si on pense à des initiatives, éco-responsable, ça prend quand même souvent de l'investissement. Donc, si on regarde une entreprise, c'est sûr qu'il faut qu'elle fasse des profits pour grandir. T'sais, des fois, on pense profit que ça va dans la poche des gestionnaires ou des propriétaires, mais c'est pas toujours ainsi. Et en fait, c'est juste que pour survivre et grandir, l'entreprise doit faire quand même des profits. Mais quand on peut, en fait, combiner le meilleur des deux mondes dans le sens où est-ce que si on pratique notre entreprise et qu'on la gère avec un leadership bienveillant, c'est que ça va vraiment maximiser les profits, dans le fond, à long terme. Justement parce que, premièrement, comme on disait tout à l'heure, les employés ou les collaborateurs vont être beaucoup plus motivés à travailler dans le même sens pour une belle cause. Engagé, donc la performance déjà là va être beaucoup plus active, si on veut. Et puis, les clients aussi, maintenant avec Internet, les gens s'informent beaucoup et leurs attentes ont changé face au gouvernement puis face aux entreprises. Donc, ils veulent encourager des compagnies qui sont responsables, que ce soit éco-responsabilité, mais aussi responsables au niveau des communautés. Donc, définitivement, ça a un impact positif au niveau de l'entreprise qui va, en fait, en retour, maximiser les profits aussi. Donc, absolument.
C'est magnifique. Je trouve que c'est vraiment une autre façon de repenser la profitabilité, mais plus bienveillant, tout ça.
Exactement. C'est ça, c'est exactement.
Puis les gens, on se fait souvent dire que c'est pas nécessairement, faut pas généraliser, mais on parle de la génération des milléniaux qui sont difficiles à garder en entreprise, il y a un beau roulement, mais je pense que les milléniaux, justement, s'identifient encore plus à une cause ou à une mission. Donc, ça les aide au niveau de la rétention.
Exactement. Puis en plus, ben c'est ça, c'est exactement. Au lieu de les voir comme un problème, il faut les voir plus comme une solution et maximiser leurs forces. Donc, souvent, c'est sûr que si c'est un peu un travail d'introspection à faire, si on a des milléniaux puis qu'on voit qu'ils ne restent pas longtemps dans notre entreprise, ça se peut qu'il faut se regarder puis voir qu'est-ce qu'on fait. Peut-être qu'on fait des choses à l'ancienne beaucoup. Les milléniaux sont beaucoup plus à jour avec les technologies, les réseaux sociaux, mais pourquoi pas miser sur leurs forces et justement, s'ils sont capables de sentir importants puis qu'ils contribuent à une belle mission, on va les fidéliser beaucoup plus. Donc, définitivement, je serais d'accord avec toi.
Il y a plusieurs entreprises qui encouragent ou certifications, en fait, qui encouragent l'entrepreneuriat positif comme la certification B Corp. En connais-tu d'autres, en fait, des exemples?
En fait, je pense que le Better Business Bureau, que je crois qu'il est plus aux États-Unis mais ou en Amérique du Nord, ça, je suis pas certaine. Mais oui, en fait, c'est sûr que c'est des compagnies qui, c'est comme une espèce de répertoire. Donc, c'est souvent en fait, ça correspond beaucoup aux critères de leadership bienveillant parce que ils ont souvent une belle mission sociale, un impact positif au niveau de l'environnement aussi, là. Donc, définitivement, c'est vraiment bien ça.
Dans l'esthétique, est-ce qu'il y a quelque chose?
Dans l'esthétique, il n'y a pas une association comme ça spécifique à l'esthétique en tant que telle. Donc, non, c'est pas vraiment. Pas nécessairement.
Est-ce qu'il y en a justement qui sont des leaders ou qui sont inspirants dans ce genre-là?
Ah, dans le domaine?
Oui.
Oui, définitivement. Quand même, tu veux qu'on les nomme, en fait?
Ou? Je ne sais pas s'il y avait quelque chose qui te venait en tête par rapport à ça.
Ben, en fait, je sais que, bon, sans parler nécessairement de spa en tant que tel, parce qu'il y en a quand même plusieurs, mais il y a aussi le Green Circle Salon, qui est ça, c'est en Amérique du Nord. Ça, j'aime beaucoup leur principe. En fait, c'est une organisation qui est un B Corp, justement. Et eux, leur but, c'est de vraiment aider tous les salons d'esthétique et de coiffure à récupérer, je crois qu'ils récupèrent comme 95% des déchets. Donc, si on pense mettons, au tube des coloristes là, pour les couleurs, les teintures, si on pense en esthétique, les bandelettes de cire qu'on jette, etc. Parce qu'évidemment, on n'a pas le choix dans notre domaine. Puis surtout, avec la COVID, je pense qu'on va le voir, là, il va falloir utiliser des matériaux jetables pour l'hygiène et vraiment renforcer le côté aseptique beaucoup plus. Donc, mais tout ça, c'est quand même de l'autre côté là, de la médaille, c'est beaucoup de déchets qui sont polluants. Mm-hmm. Alors, Green Circle Salons, je ne sais pas exactement ça fait combien de temps que ça existe, mais ça fait quand même quelques années. Et eux, ils ont un système, donc ils vous laissent des bacs dans le salon où est-ce que vous pouvez mettre les déchets qu'ils peuvent reprendre et ils vont convertir. Il y a deux choses. Ils peuvent convertir en eau potable certains déchets et de l'autre côté, ils vont brûler. Oui, ils vont brûler pour convertir ça en une énergie utilisable. Et en plus, les camions qu'ils utilisent pour ramasser les bacs avec les sacs de déchets, ce sont des camions qui ont une basse émission de CO2. Donc, ils essaient vraiment de prendre toutes les décisions pour impacter le moins possible l'environnement là, de façon... ça. Donc, il y a quand même un éco-frais. Je pense que les salons, quand ils font partie de ce programme-là, ils chargent un éco-frais aux clients en tant que tel pour, dans le fond, couvrir les frais là, de collecte, et, etc. Mais c'est pas très élevé. Puis, je crois que ça vaut vraiment la peine parce que pendant longtemps, on savait pas quoi faire. On faisait juste vraiment jeter nos déchets. Puis, on sait que c'est... Ça pollue beaucoup. C'est des tonnes de oui. déchets qui sont sauvés avec ces programmes-là. Donc, ça vaut la peine. Mais c'est bien aussi parce qu'on fait... Bon, si vous êtes un salon qui fait partie du Green Circle Salon, ça va... vous allez faire partie d'un répertoire. Donc, on sait encore là qu'il y a beaucoup de gens qui veulent encourager des compagnies qui sont éco-responsables. Donc, juste le fait d'être dans ce répertoire-là, ça peut donner une belle crédibilité puis visiter à l'entreprise aussi. Donc, mm-hmm. c'est vraiment bien.
Mais ça vaut assurément la peine. Je trouve ça très bien, moi aussi.
Exactement. Mais je pense que ça, puis je peux rajouter, il y a beaucoup de... Là, on parlait d'esthétique, mais même dans le domaine, en général, de l'entrepreneuriat, il y a de plus en plus l'économie circulaire. Donc, je ne sais pas si tu connais les jeux Loop.
Oui, ben oui, absolument.
Tu prêtes à quoi? Bon, ben ça, c'est justement...
qui récupèrent, en fait, les fruits et les légumes pour en faire les jus pressés à froid qui sont d'extraordinaire qualité, en plus.
Exactement. Puis, j'ai fait partie d'une conférence qui s'appelle Eco Leader. C'est un nouveau fonds, en fait, que le gouvernement donne pour les entreprises qui veulent intégrer des technologies durables dans leur entreprise. Donc, de plus en plus, le gouvernement veut vraiment pousser les entreprises à prendre des mesures comme ça. Donc, tout ça, ça découle du leadership bienveillant. Donc, mm-hmm. je pense qu'il y a espoir. Comme tu disais au début, c'est ça exactement. C'était pas nécessairement quelque chose qui était prioritaire, mais là, je crois que les gens, c'est vraiment le pouvoir est aux gens. Donc, c'est le plus que nous, on va manifester un intérêt d'encourager des compagnies locales ou durables, etc. Ben, ça va, les compagnies vont devoir s'adapter à ça.
Oui, comme disait Laure Varidel, en fait, dans son livre, acheter, c'est voter. Hein. Donc, c'est un peu une façon de passer son vote et puis de choisir qui est-ce qu'on encourage, comment on encourage, puis de se poser les questions, en fait, comment est-ce que je peux faire une différence mm-hmm. à ma façon, à moi. Pas nécessairement de se mettre une énorme pression, mais de commencer petit à petit, puis c'est ça, de faire un petit pas qui va mener vers quelque chose de plus grand éventuellement.
Ben, exactement, comme ton podcast.
Comme mon podcast, on commence petit. Puis...
Non. Déjà, c'est... Oh, mon Dieu. Déjà, tous les autres sujets que tu as faits, c'est super intéressant. Donc,
T'es fine. je reviens sur le leadership bienveillant. Moi, j'aimerais savoir, en fait, as-tu déjà travaillé, sans nommer de nom, là, mais est-ce que tu as déjà vécu dans un contexte de leadership qui était plus ou moins bienveillant? Qu'est-ce que tu remarquais ou tu as entendu des histoires de gens qui te parlent de ce genre de contexte-là?
Oui, parce que j'ai déjà travaillé pour la compagnie pour laquelle on travaillait ensemble. Mais c'est sûr que vers la fin, ils se sont fait acheter. Donc, de plus en plus avec Unilever, je crois qu'ils sont en train d'instaurer des mesures pour plus éco-responsables, si on veut. Mais c'est sûr que précisément dans mon domaine, je pense que c'est relativement quand même nouveau. Le thème de leadership. En fait, c'est pas un terme, en fait, que la plupart des entrepreneurs ont entendu. Mais il y en a qui le font naturellement, par contre. Donc, je crois que c'est vraiment les personnes qui ont déjà tendance à être plus ouvertes d'esprit, qui veulent travailler sur eux, qui sont intéressés à développer leur côté personnel, si on veut, le développement personnel qui leur tient à cœur. Et naturellement, il y en a qui sont des leaders conscients sans savoir nécessairement, des leaders bienveillants sans savoir nécessairement ce terme-là. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est ça. C'est l'éducation, il faut en parler, il faut sensibiliser.
Et puis, des fois, on ne le sait pas aussi. On peut sentir qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau de l'engagement de nos, de notre équipe. Ou, il ne faut pas avoir peur de sonder notre équipe, de poser les questions, de s'asseoir avec eux, d'avoir une discussion franche pour savoir comment ils se sentent réellement puis comment on peut impacter leur quotidien. Puis, des petites choses peuvent faire une différence. Un employé peut avoir besoin de plus d'écoute. Un autre employé peut avoir besoin de plus de reconnaissance. Un autre employé peut avoir besoin de plus de responsabilité. Tout ça, ça fait partie aussi de la bienveillance, de faire en sorte que les gens se sentent bien et libres de s'épanouir, en fait, dans notre contexte. Donc,
absolument.
Ouais.
En fait, je crois que quand tu as mentionné tout à l'heure, justement, l'importance de communiquer, de bien communiquer avec les employés, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on remarque dans différents domaines, que des fois, les leaders, ça dépend de notre style. Pour regarder, justement, il faut être capable de s'auto-évaluer puis de dire, OK, quel style de leadership on a? Il y en a plusieurs. Et il y en a qui sont plus du type autoritaire, qui vont vraiment prendre toutes ces décisions-là et sans impliquer le personnel. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, le personnel ne se sent pas, comme tu dis, écouté et automatiquement, ne va pas sentir qu'ils font une différence dans la compagnie. Donc, vont être probablement moins motivés à rester. Donc, tu as tout à fait raison. Je pense que c'est important de faire des rencontres avec l'équipe individuelle, en groupe aussi, mais pour aller vraiment voir ce que chacun a besoin, les idées de tout le monde, parce qu'avec la sagesse totale du groupe, ça peut donner un super bel impact à la compagnie. Donc, on peut pas tout savoir, puis on peut pas tout décider non plus. Donc, le leadership bienveillant laisse vraiment la place à, comme tu disais tout à l'heure, le nous au lieu du je, sans nécessairement tomber non plus dans le délégatif, parce qu'il y a un autre style de leadership délégatif, où est-ce que c'est le contraire, où est-ce qu'on vraiment c'est les autres qui prennent la décision, mais puis le gestionnaire est un peu plus absent au niveau décisionnel. Et ça, c'est un peu c'est difficile parce que les gens ont besoin quand même des fois d'avoir une direction. Donc, s'ils sentent qu'ils ont plus de, pas de pouvoir, mais plutôt de si vraiment il y a un groupe qui n'a pas vraiment une direction.
Manque d'encadrement, oui.
Manque d'encadrement, exactement. Ça peut s'en aller dans différentes directions, puis ça peut vraiment nuire à la cohésion de la mission du groupe. Donc, c'est pour ça qu'un des exercices, et beaucoup de gens se lancent des fois dans l'entrepreneuriat sans définir une vision claire de leur entreprise, mais ça prend ça vraiment. Donc, même si, par exemple, vous êtes déjà en entreprise et ce n'est pas quelque chose que vous avez fait nécessairement au début, prenez le temps, peut-être pendant la COVID, de bien réfléchir justement à tout ça, puis de vraiment élaborer, puis de l'écrire, la mission, puis la vision, les valeurs de l'entreprise. Parce qu'à chaque fois que vous allez avoir peut-être une entrevue avec quelqu'un qui va rentrer dans l'équipe, si déjà la personne, elle sait exactement où est-ce que vous en allez, c'est quoi la vision, c'est quoi la mission, probablement, elle va être beaucoup plus motivée et ça va vraiment donner une meilleure direction dans l'entreprise en général. Donc, tous les départements vont mieux collaborer ensemble aussi. Donc, c'est vraiment ça aussi un peu le côté holistique qu'on parlait du leadership bienveillant, c'est que vraiment, il y a une cohésion puis que toutes les pièces s'agencent et travaillent bien ensemble, dans le fond. Donc, c'est vraiment important, comme tu disais, la communication, puis d'inclure ça. Donc, c'est pour ça que le leadership, c'est comme une... Le leadership bienveillant, c'est très bien balancé parce que oui, le gestionnaire va être capable de prendre des décisions critiques quand il le faut, mais va aussi inclure les autres dans la prise de décision de la compagnie aussi. Donc, c'est vraiment
bien. Quoi les autres types de leadership? En fait, tu as parlé de directif. C'est quoi les autres types?
Donc, on a dit autoritaire délégatif. Il y a transactionnel aussi, qui est un peu comme un parent. Dans le fond, tu sais, des fois, on essaie de récompenser les bonnes actions, tout ça. Donc, transactionnel, c'est un peu ça, c'est que c'est axé un peu plus sur les tâches. OK, si tu t'accomplis bien ta tâche, tu vas avoir telle récompense ou des choses comme ça. Donc, c'est le problème avec ça, c'est juste que c'est, comme on dit, très focusé sur les tâches, la performance des tâches. Mais un coup que ça s'est fait, la personne n'est pas nécessairement plus motivée. Donc, c'est pas nécessairement le plus optimal pour une entreprise d'avoir du transactionnel. Puis après ça, le démocratique, qui est quand même mieux que les autres formes. Démocratique, c'est vraiment où est-ce qu'on... un peu plus comme passer au vote, si on veut, où est-ce que là, le gestionnaire va vraiment consulter les autres, mais ça va être vraiment tout le monde a comme le même pouvoir décisionnel, si on veut, à pied égal. Donc, encore là, bon, ça peut être bien, mais des fois, dans des situations, ça prend quand même des fois quelqu'un qui va vraiment plus diriger parce que des fois, il peut y avoir des conflits, là, tu sais, si personne ne s'entend vraiment, là,
ah oui.
Ça peut devenir un petit peu plus problématique. Donc, c'est ça. C'est des leaderships, c'est des styles de leadership qui existent en général dans le monde des entreprises, mais on voit que le transformationnel ou bienveillant, c'est comme des synonymes un peu, c'est vraiment le leadership qui va avoir le plus d'impact à long terme dans une entreprise. Donc, des fois, ça prend une réorganisation qui n'est pas toujours facile si on passe, par exemple, de autoritaire ou tout ça, mais je pense que c'est important, ça vaut la peine l'investissement de réorganiser la façon dont l'entreprise va être dirigée.
Puis comment on fait, en fait, si on veut entreprendre ce changement-là vers le leadership bienveillant? C'est quoi les étapes là, pour y arriver?
Ben, ça commence toujours avec justement les propriétaires ou les gestionnaires. Donc, définitivement, eux doivent faire un travail. Comme vous dites, ça passe toujours par un travail personnel. Donc, c'est pas nécessairement une étape, en ordre, parce que le travail personnel, c'est quelque chose qui est toujours constant. Donc, on peut pas juste dire, OK, ben, je vais travailler sur moi pendant 3 mois, puis espérer que... Donc, c'est toujours constant.
C'est réglé après.
Non, c'est ça, exactement. Mais déjà, juste en faisant... Des fois, c'est ça, ça peut paraître comme une grosse tâche, mais je pense qu'en prenant des petites actions concrètes, donc, comme je disais, si on commence par une vision claire puis inspirante pour les autres, si on commence à faire des rencontres avec les gens, les intégrer, être vulnérable, je pense que c'est vraiment important, puis d'être capable de mettre son ego de côté, puis de dire que peut-être qu'on a fait des erreurs, on est humain aussi, tu sais, on a le droit d'être humain.
Mm-hmm.
Donc, ça, j'admire ça quand les gens sont capables de dire, OK, ben écoutez, j'ai fait ça, puis là, je suis en train de réaliser que c'était peut-être pas la meilleure façon, puis vous êtes important pour nous, puis comment on peut faire en sorte pour travailler ensemble, puis les intégrer, les écouter beaucoup, qu'est-ce que eux voient, leurs idées, leurs attentes, comment ils se sentent. Puis déjà là, ça va donner des idées aussi à comment prendre des directions pour changer l'entreprise vers ça. Donc, je pense que ça serait les bonnes premières étapes.
Mm-hmm, oui, tout à fait. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu fais, en fait, dans ta pratique de coaching? Tu accompagnes les gens peut-être à regarder leur style de leadership?
Oui, absolument, c'est ça. Donc, souvent, quand je fais des consultations, je vais beaucoup je vais poser des questions pour écouter. Donc, vraiment, écouter vraiment comment... C'est sûr que quand les gens me contactent, des fois, c'est pour des questions spécifiques, mais j'essaie toujours de voir, justement, comme je reprends encore mon anglicisme, le « big picture ». Derrière, parce qu'on veut vraiment qu'il y ait un impact. Donc, si par exemple, j'ai déjà été contactée pour refaire des structures salariales, ça, c'est un sujet assez délicat parce que des fois, les entreprises se rendent compte que la structure salariale présente n'est pas toujours profitable à la compagnie, mais en même temps, ils veulent offrir quelque chose qui peut être intéressant pour les employés. Donc, des fois, c'est de regarder un petit peu, bon, comment on va faire ça, comment on va l'approcher, mais ça part toujours de la mission, c'est quoi la mission de l'entreprise, c'est quoi votre vision, le désir. Donc, on regarde toujours ça, puis basé là-dessus, on est capable de mieux trouver des solutions qui vont vraiment être un gagnant-gagnant, dans le fond, pour les deux parties. Donc, c'est ça le but, que ce soit gagnant autant pour l'entreprise, mais pour les employés. Parce que si un ou l'autre est pas bien, c'est sûr que ça va impacter l'autre partie, l'ensemble de l'entreprise aussi. Donc, c'est ça. Donc, on commence toujours ce soir avec des consultations, mais je reviens toujours avec la vision, les valeurs, etc. Et après ça, on part de là. Donc, c'est toujours un peu ce processus-là que j'adopte.
Puis c'est un travail unique, hein? Tu ne peux pas arriver avec une formule que tu appliques à tous les entreprises, tous les entrepreneurs. C'est chacun son histoire, chacun sa mission, sa vision, comme tu dis, puis tu pars de là, finalement.
Exactement, puis savoir comment le communiquer, parce que justement, si on fait juste regarder des fois des sites web, ben, cette vision-là n'est pas toujours communiquée. Donc, des fois, juste ça aussi, les clients, c'est important qu'ils puissent aller voir qui est la personne derrière cette entreprise-là? C'est quoi leur valeur? C'est ça que les gens veulent, dans le fond. On veut le pourquoi les gens se lèvent le matin pour faire ce qu'ils font et non nécessairement le quoi. T'sais. Donc, oui, si on prend l'exemple des services esthétiques, il y a tellement de cliniques. On sait qu'il y a à peu près au Québec, je crois, au-dessus de 16 000 esthéticiennes. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les gens vont venir vers vous? C'est pour vous en tant que tel. Parce que vous croyez à telle chose. Bon, comme tu dis, chacun, c'est différent. Et c'est pour ça que même tantôt, on a parlé du thème de compétition. Mais oui, les compétitions, ça existe. Mais en même temps, pour moi, puis je pense que ça, c'était un psychologue connu, Jordan Peterson, qui a dit ça un jour, ça m'a vraiment fasciné. Quand il a dit que la seule compétition qui existe, c'est vraiment nous versus hier, qui on était hier. Donc, non, vraiment. Donc, c'est vraiment de vraiment regarder chacun, comme tu disais, ses valeurs, ses missions, puis de le communiquer, non seulement au client, mais vraiment avec l'équipe au complet, puis vraiment avoir cette direction-là.
Mm-hmm. Le storytelling aussi, comme on dit, les gens veulent connaître leur histoire, votre histoire, où est-ce que vous êtes parti. Comment on fait pour bien exprimer son histoire, bien faire son storytelling, comme on dit en bon français?
Ben, en fait, je pense qu'il faut juste être soi-même. Parce que des fois, avec le marketing, je trouve qu'on essaye, je ne veux pas généraliser, mais je veux juste dire que des fois, avec tout ce qui est réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et tout ça, on essaie vraiment d'avoir une belle image parfaite. Mais je pense que c'est ça, on n'est pas, l'être humain en tant que tel, on sait, c'est pas la perfection qu'on recherche, au contraire. C'est justement d'être connecté avec quelqu'un qu'on sait qui est humain aussi, qui a aussi ses imperfections, qui a fait des erreurs, qui est tombé mais qui s'est relevé ou peu importe. Donc, c'est vraiment ce côté-là. Fait que je pense qu'il faut vraiment juste être authentique, pas avoir peur de parler des fois de ses échecs parce que ça peut inspirer d'autres personnes aussi. Puis de partager ce qu'on a appris dans le fond. Donc, ça, je pense que c'est une bonne façon. Puis de c'est ça, pas rechercher la perfection parce que la perfection, c'est l'ennemi de la progression, je crois. Donc, et ça, c'est quelque chose que moi-même, justement, j'ai été un peu... je sais pas que je suis la personne la plus perfectionniste, mais juste pour te donner l'exemple des formations en ligne, ça a été pendant 3 ans, je pense que je parlais de faire ça. Puis là, à chaque fois, je recommençais parce que c'était pas parfait, c'était pas à mon goût. À un moment donné, je le faisais pas. Donc là, je me suis vraiment arrêtée puis je me suis dit, non, on va, tu sais, je vais juste prendre le temps de faire les choses puis de mettre de l'action là-dedans. Puis ça sera pas parfait, mais c'est correct aussi, tu sais. Donc, des fois, c'est ça, c'est un peu l'ego parce que l'ego est là pour nous protéger. Mais il faut être capable de juste le mettre un peu en arrière-plan puis dire, non, c'est correct. Là,
on avance quand même, absolument.
C'est ça. Ouais.
Pour développer une culture de leadership bienveillant, je pense que ça prend quand même aussi une certaine rétrospection, puis un développement de notre intelligence émotionnelle. Je vais t'amener un petit peu là-dessus, l'intelligence émotionnelle. En fait, pour toi, c'est quoi? Comment on fait pour développer cette caractéristique-là?
Oui, ça c'est super intéressant, c'est un sujet que j'adore. En fait, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment la capacité de comprendre ses émotions en soi, de comprendre aussi les émotions des autres, puis la capacité de gérer nos propres émotions et l'émotion des autres. Donc, c'est souvent quand on a des personnes empathiques, ça peut être difficile au début de faire une séparation de ce que moi je vis puisque l'autre personne vit, parce qu'on ressent un peu les autres, on se met à la place des autres. Mais l'intelligence émotionnelle, quand on la cultive puis on la développe, c'est vraiment d'être capable de, oui, quand même être empathique, de comprendre ce que les autres vivent, mais de pas se l'approprier. Et ça nous aide beaucoup quand on parle de leadership parce que on a affaire avec des gens, que ce soit des clients, des employés, des fournisseurs, etc. Et on sait que, bon, certaines personnes peuvent être plus émotives, plus réactives. Et des fois, on se met en mode de, oh, on le prend personnel, on se sent attaqué. Mais quand on développe l'intelligence émotionnelle, on est capable de s'adapter à différentes situations. Et ça, c'est vraiment nécessaire parce qu'on va en vivre des situations. Donc, c'est pas toujours tout beau ou tout rose. Donc, faut être capable de reculer puis de pas prendre les choses nécessairement personnelles puis d'être capable de ramener la conversation donc à quelque chose de plus positif, si on veut, et de comprendre justement de où ça vient, ça, peut-être. Parce que les autres peuvent avoir des réactions plus impulsives, mais qui viennent de certains vécus qu'ils ont eu, certaines situations, ça peut provenir de l'enfance. Donc, faut être capable de comprendre ça puis de pas juger rapidement, je crois. Donc, ça nous permet justement d'avoir une meilleure empathie puis une meilleure relation avec les autres, interpersonnelle, dans le fond. Donc, je trouve que c'est vraiment très important. Et ça nous amène aussi souvent à balancer nos énergies masculines, féminines. Et ça, c'est quelque chose que je crois qu'il y a beaucoup de tabous alentour de ça, surtout dans l'entrepreneuriat, parce que si on parle, par exemple, de l'entrepreneuriat féminin, les femmes, pendant longtemps, ont dû adopter certains comportements plus masculins pour se tailler une place, des fois, dans des entreprises ou au gouvernement, par exemple. Mais par contre, c'est ce genre de traits-là qui sont peut-être plus masculins. C'est bien, il faut en avoir quand même pour être balancé, si on veut. Mais on voit que, justement, les leadership bienveillants nous amènent à développer nos énergies un peu plus féminines, pardon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que, bon, nos énergies masculines, c'est un petit peu plus par rapport à l'ordre, notre côté analytique, notre côté prendre des décisions, plus le côté rationnel. Puis, l'énergie féminine, c'est plutôt notre côté créatif. Donc, des fois, c'est plus le chaos, c'est comme le masculin est plus dans l'ordre, puis nous, on est plus dans le chaos, parce que quelqu'un, si on pense aux artistes, des gens qui sont créatifs, c'est pas toujours nécessairement les personnes les plus ordonnées, si on veut, mais c'est notre côté vraiment parce que ça provient de notre côté plus intuitif. Et c'est notre côté plus sensible, notre côté justement qui nous pousse à faire des actions qui vont être pour le bien des gens en tant que tel, notre côté protecteur ou, tu sais, maman, si on veut. Mais c'est que le tabou ou le préjugé qu'on a là-dedans, c'est d'identifier une énergie féminine juste aux femmes. Un homme peut développer sur une énergie féminine, ça va pas faire de lui une personne moins virile ou au contraire, moi je trouve personnellement.
Tout à fait, mais oui.
mais c'est ça. Donc, c'est pas une histoire liée au sexe en tant que tel, c'est plutôt tout le monde devrait balancer nos deux côtés. C'est comme le yin et le yang, ou c'est ce genre de dualité-là, l'ombre et la lumière. On a tous un côté sombre et on a tous un côté plus lumière. Donc, c'est vraiment, le but, c'est de balancer les deux. Alors, c'est la même chose et on voit que les leaders bienveillants, c'est des gens justement qui développent les deux côtés, dont l'énergie féminine qui est très, très, très développée, justement. C'est vraiment ce type de personnes-là qui sont poussées à faire des actions concrètes pour le bien collectif, pour l'environnement. Si je pense des fois à des présidentes, comme dans des pays qui sont très progressistes, comme par exemple la Norvège ou l'Islande, il y a eu des femmes présidentes. Je ne sais pas à l'heure actuelle si c'est encore des femmes, mais ils ont pris des initiatives vraiment intéressantes, comme par exemple à l'école, ils ont enlevé les notes scolaires jusqu'à, je pense, en troisième année. Ils ont encouragé beaucoup la méditation ou l'empathie chez les enfants d'un jeune âge. Donc, c'est pour le futur. C'est des gens qui vont voir vraiment à long terme qu'est-ce que leur décision d'aujourd'hui va avoir un impact sur le futur, pour les futures générations.
Mon Dieu, ça, c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup aussi, l'éducation, en fait, chez nos enfants, puis comment le voir dans une globalité autre que seulement le cursus scolaire, tu sais, développer exact. Des compétences personnelles. Ah, parle-moi pas sur ce sujet.
Oui, non, je sais, ça pourrait être un autre.
Mais je trouve ça intéressant parce que autant une femme peut se sentir prise dans son côté masculin, qui la dénature peut-être un peu, tu sais, parce qu'elle a l'impression qu'il faut qu'elle soit forte, qu'elle ait du caractère pour avoir du bon leadership, qu'un homme peut se sentir pris aussi dans son caractère masculin parce que c'est ce qu'on s'attend de lui, en fait, mais qu'il aurait aussi peut-être envie de gérer avec... un petit peu plus son côté émotif ou sensible ou artistique. Donc, je pense que oui, c'est bien d'embrasser les deux côtés, masculin et féminin, autant pour l'homme que pour la femme, puis arrêter de se culpabiliser. Ouais. Exactement. Et comment on fait? As-tu des trucs pour assumer ça, justement, ou balancer ces deux côtés-là?
Bien, en fait, c'est ça. C'est sûr que, comme tu dis, quand on se sent un peu pris dans ce type de boîte, là, si on veut, ou de label, une étiquette. Je pense qu'il faut juste avoir le courage, justement, d'être, comme je disais tout à l'heure un peu, d'être soi-même et d'assumer. Donc, c'est sûr que ça exige un travail plus personnel à ce niveau-là. Peut-être regarder de où ça vient, justement, ces croyances-là limitatives. Comme je disais tout à l'heure, ça vient souvent un petit peu de notre entourage, de notre enfance, puis tout ça. Donc, les leaders bienveillants qui veulent travailler là-dessus vont vraiment, soit par du coaching, soit par des méditations, quoi que ce soit, ils vont avoir différentes méthodes, mais je pense qu'il faut juste commencer à avoir le courage d'assumer ce côté-là. Et plus qu'on va le faire, et je pense que c'est la beauté des réseaux sociaux, des fois il y a des côtés un peu plus négatifs, mais la beauté des réseaux sociaux, c'est le fait que de plus en plus de gens l'assument, ça je le vois, je crois que toi aussi, là, on l'assume de plus en plus. Donc je pense que c'est juste de s'encourager et de s'entourer des gens comme ça. Donc si on a des gens qui nous qui sont plutôt peut-être négatifs ou qui nous qui sont pas nécessairement... qui n'ont pas nos intérêts à cœur, dans le fond. Peut-être que des fois, c'est justement de changer un petit peu d'environnement, de vraiment commencer à s'entourer de gens qu'on admire, de gens, c'est justement qui adoptent déjà ce type de comportement qu'on veut nous-mêmes adopter. Ça va nous aider vraiment à nous motiver. Puis, quand on vibre un peu dans cette énergie-là de positif, ben ça fait juste engendrer encore plus de positif. Donc, ça, c'est quelque chose que je crois vraiment beaucoup. Puis, les choses arrivent très bien naturellement aussi. Quand on est un peu dans ce, comme je disais, je parle de vibration, fréquence, là, mais c'est ce qu'on va attirer, dans le fond. Donc, c'est incroyable le pouvoir de notre pensée. En fait, ça fait référence à la plasticité du cerveau. Ça, c'est un autre thème que j'avais parlé aussi dans la conférence. Mais comment on peut vraiment changer notre monde à travers de ce que nous, on pense. Donc, c'est même prouvé par la science, là, donc c'est...
Absolument. Moi, je t'ai décrit tout à l'heure comme justement une mentor. Toi, qui sont tes mentors?
Ah, mon Dieu! J'en ai plusieurs. en fait, les plus naturels, c'est mes parents, je dirais. Mes parents ont vécu une vie assez spéciale et j'ai en fait des fois envie d'écrire un livre sur leur vie là, parce que c'était des gens qui ont passé à travers beaucoup de choses, des temps de guerre, de famine, l'immigration, ça n'a pas été facile non plus quand on est venu au Canada parce que bon, moi, je suis née au Costa Rica, mais mes parents sont du Nicaragua, donc, qui est un pays beaucoup affecté quand même par la politique. Et ils m'ont beaucoup appris. C'est incroyable, toutes les leçons de vie, puis de justement apprécier ce qu'on a. C'est pour ça que je pense que j'ai mon côté, comme tu disais, que positif, parce que j'essaie de regarder toujours le verre à moitié plein que moitié vide, parce que je compte mes bénédictions. Juste le fait d'être vivante, là, quand j'étais toute petite, j'aurais pu mourir de famine. Donc, tout ce qu'on vit, ça m'amène toujours à regarder justement les petits défis ou les problèmes qui arrivent dans la vie comme quelque chose qui n'est pas si grave que ça quand on regarde vraiment dans l'ensemble des choses, la chance que j'ai, disons, dans la vie. Donc, je pense que c'est ce que j'essaie de transmettre un peu comme message aussi, ce message d'espoir quand on vit des choses difficiles. Donc, ça, c'est vraiment mes mentors qui ont le plus d'impact, je dirais, dans ma vie. Mais sinon, côté coaching, j'en ai eu plusieurs. En fait, présentement, j'ai un coach qui s'appelle Kevin France, mais il vient des États-Unis. Ça vient d'une organisation de coaching, J.T. Fox, ça s'appelle. Donc, c'est assez gros comme organisation. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce qu'il est beaucoup dans l'éducation. Il me challenge à me sortir de ma zone de confort souvent quand on fait nos sessions de coaching. Donc, ça m'aide beaucoup aussi. Et ça m'a vraiment, depuis que je prends du coaching, ça m'a vraiment aidé à me transformer puis à prendre... des décisions dans ma vie qui m'auraient fait peur avant, mais dans lesquelles je vois vraiment tellement d'impact positif. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et sinon, en fait, le Dalai Lama.
Ah, ben oui. Le mentor vraiment... des mentors.
Pardon? Oui, c'est le mentor des mentors. Oui, exactement. Mais, oh mon Dieu, il y a tellement de gens. Toi, tu es quelqu'un qui m'inspire aussi beaucoup, honnêtement.
Ah, mon Dieu. Pas...
Non, mais c'est vrai. On en a parlé au téléphone la dernière fois, mais quand tu dis que des fois, c'est ça, c'est le temps de s'assumer vraiment dans, tu sais, quand on parlait de spiritualité ou d'énergie ou des choses comme ça, c'est quelque chose que j'avais un peu, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais un peu inquiète de parler de ça parce que j'avais peur de choquer certaines personnes, tout ça, mais je me dis non, tu sais, il faut, quand ça vient d'une bonne place, puis les gens qui sont prêts à l'écouter vont l'écouter. D'autres personnes vont peut-être pas être prêts et c'est correct aussi, il faut respecter ça. Il faut juste pas avoir peur, dans le fond. Donc, je pense fermement qu'il y a des gens qui sont sur Terre pour accomplir certaines missions dans l'amour et de vraiment aider les autres à s'élever. J'espère humblement que je le fais un peu, ou en tout cas, c'est mon désir.
J'allais le dire à quel point tu es inspirante. Et...
Merci. Mais c'est ça, mais en fait, je m'inspire de gens comme toi aussi qui font cette même mission aussi. Puis,
on s'inspire des gens qui nous entourent et puis c'est comme ça qu'on grandit. Écoute, je veux te remercier pour ton temps. Je pense que tu vas en inspirer plus d'une. S'il y a une chose qui a été dite durant la conversation que tu voudrais que les auditeurs, ceux qui nous écoutent, retiennent aujourd'hui, ça serait quoi?
Oh mon Dieu, tellement de choses. C'est dur à en choisir une. Mais je crois que... Ben, c'est sûr qu'en ce moment, étant donné qu'on est un peu dans une période assez difficile du confinement, je pense que c'est ça. C'est important je reviens un peu à ce que tu disais tantôt, de vraiment prendre le temps d'être avec soi-même. Parce que je crois que même si on veut faire une différence dans la vie des gens, on peut pas, comme on dit souvent, aider les autres si on ne s'aide pas soi-même. Donc, apprenez à tomber en amour avec soi-même, puis de vraiment... un petit bizarre. Mais vraiment, parce que si on apprend vraiment à s'accepter avec, comme on disait tout à l'heure, nos imperfections, puis vraiment voir aussi nos forces, puis s'aimer, je pense que c'est quelque chose qui est une énergie tellement contagieuse. Quand on regarde les gens qui brillent parce qu'ils sont bien avec eux-mêmes, c'est quelque chose qui a un pouvoir inimaginable dans la vie des gens. Donc, des fois, juste dans le fait d'être comme ça, sans nécessairement forcer les choses, c'est fou comment ça peut être contagieux comme ça, puis ça peut inspirer d'autres personnes. Donc, de vraiment travailler sur soi, prendre le temps de ne pas avoir peur d'aller regarder, de se défaire de nos croyances vraiment qui, des fois, nous sont limitatives. C'est correct d'avoir peur. Faut les regarder. Faut mettre des mots sur nos émotions aussi. Mais après ça, faut voir justement comment on peut faire une différence dans les autres. Mais ça commence toujours par un travail sur soi. Donc, si vous êtes ici sur Terre, vous êtes vivant, c'est pour une raison. T'sais. Donc, vous êtes assez. On essaie des fois d'être parfait, mais vous êtes assez. Donc, je pense que c'est ça.
Ah, c'est magnifique. Bon, ben, écoutez, je te dis merci infiniment, Helga. J'espère qu'on aura motivé plusieurs personnes à oser assumer leur leadership bienveillant ou entreprendre des changements, un leadership qui a un impact, puis à incarner le changement que vous souhaitez voir dans le monde.
Exactement. Moi, c'est très bien dit.
Ah, écoute, merci beaucoup. Si on veut te retrouver, Helga, on peut se rendre sur ton site web à profusion-coaching.com. C'est ça, exactement?
Oui, exactement. Merci beaucoup.
Et puis, je pense qu'on peut en savoir plus sur toi, voir tes formations en ligne ou te contacter pour prendre des séances de coaching directement avec toi. Et puis, moi, en attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de C'est la femme qui mène. Portez-vous bien.